Ce matin, on a chanté la puissance de Dieu. Chantons la puissance de Dieu. Et puis, le message va tourner alentour de la puissance de Dieu. OK? Et puis, c'est surtout une réflexion personnelle que je vais apporter ce matin. J'espère que vous allez pouvoir vous rattacher à ça. Parce que... Moi, ça m'a aidé à comprendre des choses, parce qu'après 28 ans dans une vie chrétienne, souvent, tu oublies des affaires. Hein? Et puis, c'est mon cas. Et puis, je vais partager ma réflexion avec vous ce matin. Puis, ici, on voit les miracles de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et puis, on va essayer de regarder dans quel sens que j'ai fait ma réflexion au niveau de ça. L'été passé, Lynn et moi, on a eu le privilège de passer une semaine de vacances au centre de conférences biblique de Fairhaven's. Et puis ça, le centre de conférences de Fairhaven's, c'est un centre de conférences qui appartient à l'association qu'on est dedans. Ça se situe à 1h30 de Toronto, au nord de Toronto, à peu près à 6 heures d'ici. Et puis, juste pour vous donner une journée typique, de Fairhaven's, c'est qu'on a 7 jours, c'est des conférences qui se donnent. En fait, on a un conférencier principal, un révérend qui a toujours une grande expérience dans la parole de Dieu, qui nous enseigne, et puis il nous enseigne le matin pour 1 heure et le soir pour 1 heure. L'après-midi, c'est comme un congé que tu peux faire à peu près ce que tu veux. Puis, il y a des mini-conférences en dessous que tu peux assister. Donc, ça, c'est juste pour vous donner le contexte. Et puis, on se retrouve là, Lynn et moi. Et puis, si je vous parle de cet endroit-là, c'est parce qu'il y a eu un enseignement à un moment donné qui m'a particulièrement porté à réflexion. Et puis... Et puis ça va être le sujet alentour de ce qu'on va parler ce matin. Mais le sujet, c'était en particulier le miracle de la multiplication des pains. OK? Donc, on va prier, puis après ça, on va rentrer dans le sujet. Donc, Seigneur Dieu, on te loue, on te remercie de nous permettre de partager la parole ensemble. Et Seigneur, surtout de m'aider, aide-moi, Seigneur, à partager ma réflexion avec les gens de notre communauté. Que leur cœur s'ouvre, Seigneur, à ta parole et à ce qui va être dit. Et on te rend gloire, Seigneur, pour ta puissance, ta grande puissance, Seigneur. Et on te remet ces quelques moments par le nom de ton précieux Fils, Jésus-Christ. OK, donc, un matin de conférence, il y a le pasteur conférencier, il s'appelle Dave Ralph, qui nous enseigne. Puis, son enseignement ce matin-là, c'est 2 Rois 13, versets 14 et 19. Puis là, je vais faire juste un résumé de ça. Et puis, en fait, c'est Élisée qui s'en va vers la mort. Et puis, il s'en va voir le roi Joas, puis il dit... Je veux que tu fasses 3 choses. Première chose, c'est que je veux que tu prennes des flèches puis un arc. Là, vous allez trouver ça dans la Bible. Ça, c'est la première chose à faire. Des flèches et un arc. La première chose que tu vas faire, la deuxième chose que tu vas faire, tu vas prendre ton arc, tu vas la bander, puis tu vas l'envoyer vers l'Orient, vers l'Est. OK? Ça va te permettre de vaincre les Syriens, parce que les Syriens étaient ennemis. Des Juifs. Fait que Joas s'est exécuté et a fait exactement ça. La troisième chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes flèches et tu vas cogner à terre. Fait que, puis là, c'est la seule instruction que Élisée donne à Joas. Fait que Joas prend ses flèches, cogne à terre, cogne 3 fois. Élisée n'est pas content. Il vient de cogner 3 fois, mais il n'avait pas dit combien de fois cogner. Fait qu'il dit, t'aurais dû cogner plus que ça. Il dit, jusqu'à 5-6 fois. En fait, ce qu'il est en train de dire, là, c'est que moi, l'homme de Dieu, comme Jésus, il nous donne des instructions, on se limite et on décide par nous autres-mêmes combien de fois qu'on va le faire. OK? Fait que lui, il dit, là, pour ça, tu vas bien vaincre les Syriens, mais juste trois fois. Au lieu des années entières au complet, juste trois fois, tu vas vaincre les Syriens. Mais là, on peut comprendre que Joas n'avait pas la vision d'Élisée, parce que lui, c'était un homme de Dieu. Comme Jésus, on n'a pas sa vision. On peut comprendre que Joas n'avait pas la vision d'Élisée et que il était limité, effectivement, dans ses bénédictions parce qu'il avait décidé lui-même qu'est-ce qu'il ferait, au lieu d'écouter la parole de Dieu. OK? Mais là, le révérend Ralph, il dit, ça, c'est la même chose que la multiplication des pains, le miracle de la multiplication des pains, puis il fait juste lancer ça de même. Puis là, moi, je dis, je comprends pas. Je comprends pas qu'il nous dise ça. Puis pourquoi, tu sais, j'aurais aimé ça de moi, là, parce que moi, je veux comprendre pourquoi il y a un parallèle entre les deux. OK? Ça fait que ça m'a amené à moi-même à faire mes propres recherches. Parce que les manèges ont commencé à me tourner et dire, ben, il faut que je trouve pourquoi. Il y a un parallèle là. Là, comme je vous disais, moi, ça fait 28 ans, puis j'ai lu ça, ce passage-là, de la multiplication des pains à maintes reprises. Je l'ai relu, mais j'ai jamais compris vraiment la signification, autre que c'était extraordinaire. Jésus, c'était merveilleux. Il avait nourri 5000 hommes. Pour moi, mon contentement était là. Je croyais fermement ça, et c'était mon contentement. J'avais comme pas besoin de plus que ça. Juste ça, c'était pour moi. Dieu est merveilleux, extraordinaire. Jésus, c'est extraordinaire. Il vient de faire une multiplication des pains. Il a nourri des gens. C'est extraordinaire. J'avais pas besoin de plus que ça. Mais parce que le pasteur il a dit un parallèle, là, j'ai commencé à chercher. Ça fait que là, j'ai commencé à lire Marc 6, 30 à 44, qui est la multiplication des pains. Là, j'ai lu. J'ai pas compris. J'ai relu. Je sais pas combien de fois j'ai lu, mais j'ai pas compris la signification. Je ne comprenais pas la signification. Là, j'ai dit, là, ça marche pas mon affaire. Seigneur, éclaire-moi. Faut que je comprenne quelque chose, ça n'a pas de sens. Après ça, je ne comprends pas. C'était encore la même affaire. Je disais ça, puis c'était un beau miracle, puis ça finissait là. Là, à un moment donné, après avoir prié, puis demandé au Seigneur de m'aider, là, j'ai continué ma lecture. Puis là, il y a un autre miracle qui se produit tout de suite après la multiplication des pains. Puis là, j'ai continué ma lecture, Marc 6, 45 à 52, qui était le deuxième miracle. Puis là, je suis tombé sur ce verset-là. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Je l'ai pris un peu personnel. OK? Le cœur endurci. Après 28 ans, j'ai le cœur endurci. Mais là, j'avais au moins commencé à trouver la clé de mon incompréhension. OK? Mais il fallait que j'aille un petit peu plus loin. Et puis, pourquoi qu'il était endurci? C'est-tu parce que j'avais une faute d'émerveillement? J'avais-tu oublié l'édification que les miracles m'apportaient? Je manquais-tu de nourriture dans la parole de Dieu? Je disais, pas assez ma parole. Fait que je me suis dit, je vais retourner à la base. On commençait à la base. Puis, je vais aller voir le premier miracle, le premier grand miracle de Dieu. Puis, pour moi, le premier grand miracle de Dieu, c'était évidemment la création. OK, ça, c'est la première chose que Dieu, les premiers mots qu'on retrouve, c'est « au commencement, Dieu ». juste au commencement Dieu, on pourra passer les 4 prochains jours à parler juste au commencement Dieu. OK? Mais on ne le fera pas. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a fait en premier les cieux et la terre, la lumière, toujours dans un jour, une journée. Hein? Il faisait ça. Le jour et la nuit, verset 5, les eaux, verset 6, le ciel, verset 7, le sol, verset 9, la végétation, le soleil et la lune, les poissons et les animaux, ensuite les animaux sont leurs espèces, et finalement l'homme et la femme. Là, moi, ça, il y a Richard, qui est ici. Quand on se rend compte pour les enseignements, il me dit toujours, moi, quand je lis ça, le poil me retrousse. Je comprends que le poil me retrousse. Je comprends ça. Parce que Richard, il a raison, parce qu'il voit la puissance de Dieu, le Créateur, dans ces versets-là. Puis, quand on regarde ces versets-là, une affaire ne peut pas arriver avant l'autre. C'est parfait. Tu ne peux pas mettre le soleil avant le jour et la nuit parce que ça ne marchera pas en bout de compte, parce que le jour et la nuit, ça détermine le 24 heures. OK? Et puis, ça prenait après ça pour identifier le 24 heures, un soleil et une lune. Puis, tu ne peux pas mettre les poissons avant les eaux parce que le poisson va de la misère à respirer. Hein? Fait que c'est un plan, une création parfaite. OK? Et puis, quand Richard, lui, il regarde ça puis il dit le poil me retrousse, il contemple la grandeur de Dieu. Son cœur contemple la grandeur de Dieu. Il est émerveillé et puis il laisse la place comme un enfant à découvrir Dieu. Son cœur devient attendri parce qu'il est émerveillé, le Saint-Esprit lui parle. Et puis son cœur devient attendri. Donc, réellement, quand on sort dehors, on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse d'être émerveillé, d'être édifié devant la création. On prend ça, nous autres, pour acquis, puis c'est juste là, puis la vie continue. T'sais. En fait, il n'y a pas un être humain qui ne devrait pas être émerveillé devant la puissante création de Dieu. C'était son premier grand miracle. Puis la parole nous dit dans Romains 1, 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans tout l'ouvrage. » Okay? On est donc inexcusable. Et puis, c'est tellement vrai ça que l'homme, aujourd'hui encore, est en train de découvrir l'univers, est en train de découvrir la création de Dieu. Puis là, il envoie des sondes, il envoie des télescopes, il envoie des satellites. À chaque fois, il trouve quelque chose de nouveau. Puis à chaque fois, il essaie d'expliquer pourquoi que la création existe, parce que là, ils viennent de défaire ce qu'il avait fait avant, parce que l'univers, elle est éternelle, elle est grande. C'est une création incroyable. Moi, je dis, si les gens pourraient avouer que Dieu existe, qu'ils arrêteraient de chercher et découvriraient des choses encore plus grandes. Parce que là, ils sont juste concentrés, ils ont des œillets, puis ils sont concentrés sur une affaire, essayer de prouver que Dieu n'a pas créé. OK? Mais s'ils ouvriraient leur affaire, ils découvriraient des choses encore plus grandes, ils seraient encore plus émerveillés. Donc, moi, je concluais que l'humanité a le cœur endurci. Comme les disciples avaient le cœur endurci. Ce verset-là nous démontre les traits de Dieu. Hein? Quand on regarde ses perfections invisibles, qu'on ne voit pas, sa puissance éternelle et sa divinité. Et ça nous montre les traits de Dieu. Qui sont éternels. Fait que ça confirme que Dieu existe, effectivement. Et puis, c'était-tu assez pour moi pour comprendre le miracle des multiplications, il fallait que je passe à travers un autre miracle. Puis, c'est quoi un autre miracle que je pourrais passer à travers? Fait que là, j'ai dit, bien là, je vais prendre le premier miracle de Jésus.
Quand j'ai sauté par-dessus, oui.
OK. Puis là, j'ai dit, OK, c'est le miracle des noces de Cana. Hein? C'est le premier miracle. Puis ça, c'est le verset 11 qui nous dit, « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fait Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Fait que là, les disciples avaient le cœur ouvert, ils voyaient tout ça. Puis, hey, ils crurent en lui, c'était son premier miracle. Fait que là, au verset 3, le vin ayant manqué, on va passer à travers de ça. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Ça, ces trois versets-là, c'est assez fort. Parce que Marie, là, c'est son premier miracle. Elle ne sait pas s'il va en faire un miracle ou pas. Elle a tellement la foi qu'il n'y a aucun doute dans sa tête qu'il peut faire quelque chose. Elle n'a pas été voir l'ordonnateur du repas pour dire qu'il n'y a plus de vin. Elle n'a pas été voir le gars qui organisait tout ça. Elle a été voir Jésus. Elle était tellement convaincue qu'il était capable de le faire sans l'avoir jamais vu. Elle avait la foi. Son cœur était ouvert. Puis elle a dit, « Jésus, on n'a plus de vin. » Puis là, il dit, « Hey, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Là? Pourquoi tu viens de demander ça? » Puis là, elle se retourne d'abord et elle dit au serviteur, « Faites qu'est-ce qu'il va vous dire. » Ça prenait de la foi en Titi, ça. Hein? Fait que le cœur de Marie n'était pas endurci parce que sa foi était très grande. Elle n'avait aucun doute dans les capacités de Jésus comme Dieu. Après ça, là, verset 8, il puise maintenant. Il leur dit, portez-le à l'ordonnateur du repas. Ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, le vin changea en eau, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon quand on est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Le vin que Jésus a fait était meilleur que ce qui avait été servi au début. Tout le monde était saoul, mais c'était encore le bon vin. OK? Donc, il est un petit peu comique, notre Dieu. Hein? Il dit, ouais, moi, vous pouvez, moi, que c'est... supérieure, là. Tu sais? Et puis, on voit clairement qu'il est supérieur. Puis là, je vais vous faire une démonstration comment il est supérieur. Puis là, on va regarder les étapes pour faire du vin. OK? Jésus, directement dans le vase, il y a de l'eau, change le vin, meilleur vin. Là, après la récolte, là, parce que là, il faut qu'il plante son affaire, tout ça, je ne l'ai pas mis, là. Parce que ça, il y a encore des étapes-là. Ça, il prend 7 étapes pour arriver à la même affaire, puis ça ne veut pas dire que c'est le meilleur vin. OK? Ça prend des années et des années d'expérience et de goûtage pour arriver à avoir un bon vin. Mais on voit la différence entre Dieu et l'homme. Puis c'est pour ça que Dieu a fait des miracles. C'est pour ça qu'il y a eu des miracles. Pour qu'on puisse voir la différence entre lui et nous. S'il n'y a pas de miracle, c'est un gars comme nous autres. OK? Mais il fait ça pour qu'on puisse être émerveillé, édifié, lui faire confiance, avoir la foi. Et puis, même à ça, souvent, on ne se rend pas là. On n'est pas là. OK? On prend pour des choses pour acquis. Puis quand on dit pour acquis, c'est qu'on ne prie plus. Jésus est là, mais c'est une commodité. On ne prie plus pour les autres, on ne prie plus pour soi-même. On laisse les choses aller. On prend ça pour acquis. On vit dans la complaisance. Puis on affronte la vie, puis on trouve ça difficile. Ben oui, mais on a oublié un bout. OK, on a le cœur endurci après un bout. Hein? Et puis... quand leur cœur est mis en justice aux disciples, c'est qu'ils avaient pris Jésus pour acquis. En fait, c'était le 20e miracle de Jésus. Fait qu'ils commençaient à être habitués, eux autres. Un, deux. Au début, le premier, wow! Que rendu? Après ça, le deux, trois. Rendu au 20e, ils ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient des miracles. OK? Ça fait que, là, j'ai dit, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a oublié en quelque part. OK? Puis, là, j'ai eu un flash dire, OK, Jean-Baptiste, lui, il prêchait dans le désert, et puis les Juifs venaient à lui pour se faire baptiser. Mais là, quand il venait se faire baptiser, Jean-Baptiste était en furie parce qu'il savait qu'il faisait juste pour être comme les autres. Tu sais, tout le monde savait se faire baptiser, on va tous se faire baptiser. OK? Fait que les Juifs se sentaient arrivés. OK? Puis là, Jean, il secoue un peu, puis là, il leur dit, dans Luc 3, 8, il dit, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » OK? Jean leur disait, Dieu n'a pas besoin de vous autres. Dieu peut susciter de ces roches des gens qui vont l'adorer. Puis vous autres, vous avez oublié ce bout-là. Puis c'était quoi qui manquait? Ils avaient perdu la crainte de Dieu. Ils ne craignaient plus Dieu. Ils avaient perdu la crainte de Dieu. Ils étaient autosuffisants. Ils avaient perdu cette crainte-là. Là, je me suis dit, c'est vrai que la crainte de Dieu est extrêmement importante dans nos vies. En fait, c'est tellement important que les proverbes, 15 des 30 proverbes parlent de la crainte de Dieu. Et les proverbes, c'est de l'enseignement pour nous aider dans la vie de tous les jours. 15 parle. OK? Puis je vais passer à travers d'une coupe pour qu'on puisse bien saisir. Dans le premier proverbe, verset 7, il dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, le commencement de la connaissance de Dieu. Donc, de base, si on n'a pas la crainte de l'Éternel, on vous manque un bout pour comprendre Dieu, là. Hein? C'est le Proverbe 1, verset 7. Puis, suite à, dans le même proverbe, verset 29, parce qu'ils ont haï la science ou la crainte de l'Éternel et qu'ils n'ont pas choisi cette crainte ou la science, ils se nourriront du fruit de leur voie. Donc, ils vont te laisser à eux autres mêmes. Ils vont se nourrir à eux autres mêmes de leur propre voie. Ensuite, le proverbe 2:5, il dit, « Alors, que tu vas avoir compris la crainte de Dieu, alors que tu comprendras la crainte de Dieu, tu trouveras la connaissance de Dieu. » Donc, ça passe par la crainte de Dieu pour aller vers la connaissance de Dieu. Proverbe 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Donc, il y a une petite définition ici. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. OK? Donc, il y a un bel enseignement ici, mais ça passe par la crainte de l'Éternel que Dieu hait certaines choses. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Évidemment, c'est la mort spirituelle. Ce n'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, en ayant la crainte de l'Éternel, on voit Dieu, Dieu émerveillé, Dieu grand, Dieu puissant, on devient plus humble comme individu. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. On se détourne du mal. Il y a un exemple dans la parole de Dieu d'un homme qui s'est détourné du mal. Dans Genèse 39, 7 à 9, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux de Joseph. Donc, le maître de Joseph, sa femme, porte les yeux sur lui. Il dit, « Couche avec moi. » Il refusa. Il dit à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et voici le verset clé. Comment ferais-je un aussi grand mal et je pécherais contre Dieu? Est-ce qu'il avait la crainte de l'Éternel? Joseph, il avait la crainte de l'Éternel. Okay. Je pécherais contre Dieu. Est-ce que, quand on se voit dans une situation, on a le réflexe de la crainte de Dieu pour dire, vais-je pécher contre Dieu? On va continuer avec Proverbe 16, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, vie spirituelle. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Pas de la richesse monétaire, pas de la richesse spirituelle, évidemment. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'ils aient toujours la crainte de l'Éternel. Voyez-vous, le cœur entre là. OK? Donc, le cœur doit avoir la crainte de l'Éternel. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et puis ça fermait, le Proverbe 28, 14 fermait comme ma boucle, bien comme il faut. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit ton cœur tombe dans le tombeau. OK? On vient exactement à la même place qu'au début, où est-ce qu'ils n'avaient pas compris parce que leur cœur était endurci. OK? Quand on relit le proverbe encore 28, celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. OK, même si tu es chrétien, ça fait 30 ans, 28 ans, si ton cœur s'endurcit devant la merveille et les merveilles de Dieu, tu tombes dans le malheur. OK? Je vais conclure en disant ceci. Un cœur endurci se guérit par la crainte de Dieu. Des fois, là, comme moi, il faut passer par les miracles pour comprendre Dieu et sa majesté. La puissance des miracles, ce n'est pas seulement ce qu'on peut voir, mais aussi ce qu'elle peut nous enseigner pour que notre cœur soit à l'écoute de la parole de Dieu. Puis là, la question qu'on se pose, est-ce que j'ai compris le miracle de la multiplication des pains? Finalement, je vais vous dire oui, je l'ai compris, mais je vais le faire dans un autre message. Pas aujourd'hui, parce que je trouvais que ce message-là était plus important pour le moment. Mais ce qui m'a marqué le plus dans cette extraordinaire histoire de ce miracle, c'est la compréhension de mon cœur qui pouvait s'endurcir rapidement si je ne prenais pas le temps de connaître Dieu. Dieu, il nous attend dans sa parole. Dieu nous attend dans la prière. Dieu nous attend dans notre foi. Mais pour bien voir sa présence, ça prend un cœur attendri. Apprendre la crainte de l'Éternel. Et la beauté dans tout cela, là, c'est que les instructions sont au bout de nos doigts. Moi, je vais prier cette semaine pour moi. Je vais prier pour vous. J'aimerais ça que les gens prient les uns pour les autres, pour qu'on puisse, comme ensemble, comprendre la crainte de l'Éternel, que nos cœurs soient moins endurcis, et puis qu'on soit différents. Différents non seulement entre nous, mais pour notre communauté, que les gens comprennent la grandeur de Dieu dans nos vies. Donc, c'est ma prière pour cette semaine. Je vous encourage à revoir les quelques passages qu'on a vus aujourd'hui pour votre édification et votre émerveillement. Et surtout, toujours se rappeler que ça commence par la crainte de Dieu. Amen.
Merci Luc.
Je sais pas être sûr.